Loué soit Jésus-Christ. Je vous salue très fraternellement tous. Hier, nous avons eu la joie de voir l'unité, la communion des deux groupes. Les jeunes sont arrivés un petit peu en fin de journée, inondés de la joie d'un mariage. Et puis, hier soir, nous avons eu une veillée ensemble qui nous a plongés dans la grâce d'un pèlerinage. Je vous avoue, je n'ai pas eu encore la joie ni la grâce de célébrer un pèlerinage à Assise avec la fraternité, mais c'était un appel, que j'ai vécu ça comme une invitation, et quelque chose d'important ce serait important pour ma formation à l'esprit de la fraternité. Merci. Alors, vous voyez, nous sommes réunis ce matin pour continuer de réfléchir au trésor que le Père nous a transmis. Nous avons entendu le témoignage de Sœur Thérèse hier, qui nous a plongé dans l'intimité du Père, sa grâce filiale, quand le Père a prononcé ce Abba, Sœur Thérèse nous a invité à prononcer aussi ce Abba, demander la grâce d'un esprit filial, total, dans cette chambre justement où le Père est décédé. Et donc hier soir nous avons eu ce parcours sur les pas de Saint François. Et aujourd'hui je voudrais simplement avec vous vous partager quelques-uns des trésors que j'ai trouvés dans le livre « Être la joie de Dieu » que tout le monde bien sûr connaît. Vous le connaissez mieux que moi, certainement. J'ai commencé à le feuilleter et puis depuis quelques mois, bien sûr, j'ai beaucoup de joie à l'utiliser pour me nourrir, pour m'aider à prier. Et je suis un tout petit peu plus en contact avec quelques-unes d'entre vous qui sont à Venasque. Et j'ai été mis sur la piste des flashs qui se trouvent de la page 194 jusqu'à la page 201. Vous voyez, 6 ou 7 pages de textes qui sont brûlants. Ce sont des textes que le Père Marie-Joseph nous a laissés en 1972, justement au cours d'un pèlerinage à Rome et à Assise. Le Père Marie-Joseph aimait les jeunes. Les jeunes foyers, et il avait confiance en eux. Il se montrait exigeant envers eux, et eux, de leur côté, vivaient ces exigences comme une estime. On pourrait parcourir ces flashs en retrouvant constamment cette confiance, cet enthousiasme qui le portait vers les jeunes depuis le début de sa vie religieuse et les rencontres JF des années 1935 à Beach. Tout son ministère est orienté vers la mise en lumière de la beauté de l'amour humain sauvé par le Christ. Alors, si vous voulez, nous allons simplement lire quelques textes de ces flashs, quelques phrases. Ceux qui ont le texte sous les yeux peuvent le lire en même temps que nous. Nous allons parcourir ces pages trop rapidement, bien entendu, ça suppose une étude. Moi-même, je les ai parcourus comme fils de Saint François, avec vous. J'ai la grâce de pouvoir avoir un taux qui m'a été remis par le Père. Et je lis ces textes d'abord comme un frère, aussi comme un théologien, puisque ma formation me permet de découvrir aussi les assises extrêmement fortes de la formation, de l'enseignement du Père Marie-Joseph. Et je n'ai pas non plus à légitimer, bien entendu, l'enseignement du Père Marie-Joseph, mais je voudrais vous montrer un tout petit peu, nous montrer ensemble, pour nous conforter, la solidité de l'enseignement du Père, qui est fondé vraiment dans les vérités de la foi, les plus fermes, et celles qui sont plus chères à son cœur aussi. En sachant que tout ce que nous allons dire aujourd'hui, ça n'est qu'une infime partie, bien sûr, de l'enseignement du Père et des conseils qui remplissent ces livres et tous ces enseignements, ce qui est publié et ce qui n'est pas encore publié, qui est encore plus important. Alors, premier et deuxième flash. Ça s'appelle comme ça, flash. Page 194, 195. La première chose à souligner, c'est que nous sommes à l'image de Dieu. Nous avons des puissances d'aimer qui ont leur origine en Dieu lui-même qui est amour. Voici ce que dit le Père. Dieu est amour, il est l'amour. L'homme est créé à son image. Il n'est donc vraiment homme que s'il aime, que s'il vit d'amour dans l'amour. C'est qu'en effet, l'homme qui est créé par amour et pour aimer est en déséquilibre fondamental. Il a perdu cet équilibre. Il est tronqué tant qu'il ne rencontre pas l'amour, tant qu'il n'en fait pas une forte expérience. Au contraire, l'homme qui aime et se sait aimer, dit le Père, est heureux. Il n'est plus une caricature d'homme. Il est entier. C'est le propre de la maturité de l'amour d'impliquer toutes les potentialités de l'homme et d'inclure, pour ainsi dire, l'homme dans son intégralité. Esprit, volonté, force affective, dit le Père Marie-Joseph, relié à Dieu, ouvert à sa parole, sa volonté, sa vie. Donc avec toutes nos puissances d'aimer, nous sommes ouverts à Dieu et créés pour cette union avec lui. Et l'être humain est en ordre quand il est relié à Dieu, uni à lui. Pourquoi cela? Parce que Dieu est la norme de son être, dit le Père. La norme, c'est-à-dire la mesure. Dieu prend soin de tous les êtres qu'il a créés. Mais de nous autres, êtres humains, il prend soin autrement que des êtres non personnels. Il prend soin de nous, non pas de l'extérieur, par les lois de la nature physique, mais de l'intérieur, par la raison, qui du fait qu'elle connaît la loi éternelle de Dieu, par une lumière naturelle, est en mesure de montrer à l'homme la juste direction de son agir libre. Et c'est pourquoi le Père nous dit, c'est là l'ordre réel de l'existence humaine. Le contraire, c'est le désordre. Donc, l'homme doit être branché, modulé sur celui qui est sa première et suprême raison d'être, son exemplaire essentiel. C'est en communiant à la loi divine, à cet ordre, à cette mesure norme de toute chose qu'est la sagesse de Dieu, que nous sommes en ordre nous-mêmes et que nous gouvernons le monde qui nous est confié par Dieu avec ordre, selon l'ordre voulu par Dieu. C'est cela la grandeur de la personne humaine. Le deuxième aspect que souligne le premier flash se trouve dans la magnifique fresque de la création de l'homme de Michel-Ange. Dieu touchant de son doigt le doigt de l'homme. Et le Père s'extasie devant ce mystère. Il y a tant d'amour dans le geste du Père qui touche l'homme qu'il vient de créer et qui est là dans sa pureté originelle. Dans sa pureté originelle. Le Concile de Trente nous dit que tous les hommes ont perdu la pureté l'innocence et la justice originelle dans le péché d'Adam. Et le Père Marie-Joseph a un sens extrêmement profond de cette innocence, de cette pureté originelle perdue par le premier péché. Ce que nous appelons la justice originelle, c'est justement comme la mise en ordre de l'être humain. De même qu'une note de musique sonne juste quand elle est en rapport exact avec ce qui l'accompagne dans un accord, un ordre parfait régnait dans les rapports de l'homme avec lui-même, avec la femme, et avec les autres et avec Dieu. Et par-delà les siècles, le Père Marie-Joseph, qui est au seuil de la basilique Saint-Pierre de Rome, voyez, qui va nous expliquer dans un flash l'importance de cette pureté originelle. À la lumière donc de la fresque de la création de l'homme de Michel-Ange. Par-delà les siècles, 20 siècles, 20, 25 siècles, 30 siècles, combien de siècles on ne peut pas dire, hein, le Père Marie-Joseph considère ce moment dans l'histoire de l'être humain où l'homme et la femme vivaient tous deux de la grâce sanctifiante qui est l'élément essentiel de la sainteté, l'innocence originelle. Et nous savons ce qu'était cette innocence originelle. Quand Jésus s'y réfère, en Matthieu au chapitre 19, il pointe un état de l'homme et de la femme dans lequel resplendissait le bel amour. Jésus se réfère à cette justice originelle, à cet état où l'homme et la femme, son épouse, communiaient parfaitement au regard de Dieu sur eux, qui les voulait l'un pour l'autre, dans un amour qui les rende heureux. Et il les faisait un par l'amour. Et la conséquence de la perte de la grâce, de la justice, de l'innocence originelle, de la pureté originelle, comme dit le Père, c'est que nous sommes laissés à ce désir dont l'homme se glorifie, de décréter par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal, sans avoir à dépendre d'un législateur qui le dominerait, d'une loi qui serait la loi de la nature ou la loi de Dieu, la norme, la mesure dont il a parlé plus haut. Nous avons donc, voyez, en ces quelques lignes du premier flash, deux vérités de foi très finement écrites. Il n'y a pas d'improvisation dans ces textes. Ce sont des textes qui sont pesés, tous les mots sont pesés. Dans quelques lignes, donc deux vérités de foi d'abord, fondamentales. Nous sommes faits pour communier à la loi de notre Créateur, pour être associés à cette loi divine. Nous pouvons la faire nôtre. Et ce pouvoir, il est hélas affaibli, non pas éteint, mais affaibli, par le péché originel qui nous a fait perdre la pureté originelle. Mais c'est pas tout. Le Père ne termine pas sa méditation sans saluer avec un tressaillement de joie le mystère de notre salut. Le péché originel est un fait, dit-il, est une chose bien triste. Cependant, Dieu n'abandonne pas sa créature de prédilection, son chef-d'œuvre. Il la sauve, la restaure par son propre Fils, notre Seigneur et Rédempteur. Contemplons, dit-il, l'amour qui préside à l'œuvre de la création et de la rédemption. Et nous allons pouvoir surmonter le temps qui nous sépare de l'origine du paradis terrestre, parce que le Christ nous fait un cadeau plus précieux que cette innocence originelle. C'est qu'il nous tire d'un état de péché qu'il n'a pas créé et nous redonne la grâce qui est la participation à la vie de Dieu lui-même et qui nous ramène, à travers des combats bien sûr, dans l'intimité de Dieu pour laquelle nous sommes créés. Maintenant, regardons le troisième et le quatrième flash. Encore une fois, je ne peux pas tout dire, et dans mon texte long que je vous laisserai, donc vous pourrez trouver d'autres aspects que je ne voudrais pas allonger trop notre méditation de ce matin, mais donc je vous laisserai un texte un petit peu plus long, mais qui complétera un petit peu les choses essentielles, bien sûr, comme la place de Pierre, bien sûr, dans ce deuxième flash, très important. Mais, donc, je saute tout de suite au troisième et au quatrième flash. Le troisième flash s'ouvre par une parole étonnante. La plénitude de l'amour, dit le Père, c'est l'amour virginal, le don de soi total. Et il explique qu'il s'agit de soumettre les réalités charnelles à l'esprit. C'est l'esprit, avec un petit e, qui doit dominer. L'esprit, avec un petit e, éclairé et aidé par le Saint-Esprit. Page 196. Alors pour comprendre ce que veut dire le Père Marie-Joseph ici, on peut se rappeler l'une des conséquences du péché originel, le désordre psychologique de la convoitise. C'est une tendance, un certain penchant au mal. Or, le mal pour l'homme consiste en définitive non seulement dans une absence d'ordre, mais dans une privation d'ordre. Alors que l'ordre est réalisé quand l'homme est soumis à Dieu, d'une part, et quand, d'autre part, sa vie sensible est soumise à la raison, le mal est réalisé quand l'homme se révolte contre Dieu et quand les passions sensibles ne sont plus contrôlées par la raison. Ce double mal représente non seulement un simple désordre pour la raison, au sens où on parle d'une chambre en désordre, mais, si on peut dire, ça représente un saccage. Il y a une différence entre une chambre qui est simplement en désordre et puis une chambre qu'on a saccagée. Dans la situation où nous sommes après le péché originel, nous portons en nous une tendance qui nous pousse au mal, un penchant dans le sens du grand désordre. Et c'est l'Esprit Saint seul qui peut alors venir au secours de notre faiblesse, comme le dit saint Paul, et nous tenir dans cette situation de la grâce et nous aider à ne pas perdre l'équilibre. Notre vie doit être dominée par l'Esprit Saint, dit le Père Marie-Joseph. Il le répète après saint Paul. Plus l'Esprit Saint nous envahira, nous dominera, plus l'esprit d'amour sera le moteur de notre vie, plus il rectifiera ce désordre dans notre cœur blessé, et plus l'amour auquel nous rêvons deviendra beau, ce don total que Dieu a voulu à l'origine et que Jésus seul peut nous permettre de vivre parce qu'il nous y reconduit par la grâce. Et c'est alors que la joie du don de soi reviendra. La joie du don de soi pour lequel nous sommes créés. Nous sommes créés pour aimer. Alors revenons à cette expression « virginiser l'amour ». Quand on étudie la rhétorique, avec un bon dictionnaire de rhétorique, des difficultés de la langue française, on s'aperçoit que cette expression « virginiser l'amour » est un oxymore. C'est un mot bizarre. Il faut regarder dans le dictionnaire ce que c'est. C'est une alliance de mots de sens incompatibles. Par exemple, le clair-obscur. Et ici, « virginiser l'amour », nous savons bien que la virginité cesse avec l'amour. Une vierge, en effet, désigne une fille qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Alors, qu'est-ce que veut dire le Père Marie-Joseph en utilisant ce verbe « virginiser l'amour. Il relie deux mots de sens opposé. Face à cette situation lamentable dans laquelle nous laisse le péché originel, cet état de blessure dans lequel nos facultés sensibles ne sont plus soumises à la raison et où notre raison n'est plus soumise à Dieu, le premier fruit de la rédemption apportée par Jésus et à nouveau greffée dans le cœur humain est la conscience fondamentale d'être aimé, d'avoir reçu le don de l'Esprit-Saint, le don en personne. Le premier fruit de la rédemption, c'est la certitude, la conviction, l'expérience d'être aimé de Dieu, expérience nécessaire pour s'aimer soi-même et aimer autrui. Par la grâce, l'ordre tel que le Seigneur le veut, est rétabli, bien que nous restions dans un équilibre instable. Mais l'ordre est rétabli en nous-mêmes, dans un amour juste de nous-mêmes. L'ordre est rétabli entre les puissances sensibles et la raison et Dieu. L'ordre revenant, le bel amour peut germer. Et comment cela se traduit-il dans le mariage? Grâce au Rédempteur, les relations interpersonnelles ne sont plus irrémédiablement déterminées par la convoitise, c'est-à-dire cette déformation du mutuel pour, voulu pour les personnes à l'origine. Rappelons-nous, la femme était voulue par Dieu pour l'homme. L'homme pour la femme. Aide l'un de l'autre, l'un pour l'autre. Aide nécessaire sans laquelle ni l'un ni l'autre ne pouvait atteindre cette plénitude d'humanité pour laquelle il était créé. Donc, la personne humaine, dans le mariage surtout, elle est faite pour le conjoint. Eh bien, la grâce du Rédempteur fait que les relations interpersonnelles ne sont plus dominées par la convoitise, cette déformation du mutuel pour, hélas, cette domination de l'un par l'autre, qui est la conséquence du péché originel, a fait perdre le caractère de communion des personnes en faveur de la fonction utilitaire. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. C'est ce que Dieu dit à nos premiers parents. Nous savons ce que Jésus enseigne à ce sujet. Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. En Matthieu 5. Et à ce propos, Jean-Paul II a écrit « L'homme qui regarde de cette façon se sert de la femme, de sa féminité, pour assouvir ses propres instincts. » La révélation et la rédemption apportée par le Christ spiritualisent l'amour de l'homme et de la femme. Le Christ ouvre de nouvelles perspectives aux époux et dévoile les ressources contenues à l'origine dans la révélation de l'amour et du don. Alors que l'adultère est contraire à cette unité voulue par le Créateur, tous deux ne sont plus qu'un, Jésus lui confirme cette signification essentielle. Il virginise l'amour, parce qu'il rend à nouveau possible le don mutuel des époux dans la paix de la grâce sanctifiante. La charité nous permet de lutter contre l'utilitarisme. C'est l'œuvre merveilleuse de la rédemption. L'amour est sauvé. Il était perdu et il est retrouvé. Le cœur des époux est virginisé, rendu en quelque sorte à sa pureté première. Il est libéré de la concupiscence et c'est ainsi que dans le cœur des époux, uni par le sacrement du mariage, resplendit toute la vérité intérieure du pour, de l'aide réciproque que Dieu veut pour l'un et l'autre. Dans le Christ, l'homme doit redécouvrir la plénitude perdue de son humanité et il doit vouloir la retrouver. C'est ce que dit le Père Marie-Joseph, toujours dans ses flashs. Mariés, les conjoints s'aimeront et progresseront dans l'amour, non selon le baromètre de leur commerce charnel, mais dans la mesure où ce commerce est non pas assouvissement aveugle de l'instinct sexuel, mais soumission des réalités charnelles à l'esprit. Page 196. Les époux en deviennent capables, effectivement, s'ils laissent le Christ dévoiler et purifier la tendance au péché, ce qui leur fait perdre le sens limpide de la signification conjugale du corps dans laquelle s'exprime la maîtrise intérieure et la liberté de l'esprit voulue par Dieu à l'origine et rendue au baptisé par la grâce du sacrement de mariage. Maîtrise intérieure et liberté de l'esprit, condition essentielle du bel amour conjugal. Dans ce contexte, les paroles du Père Marie-Joseph, dans son quatrième flash, prennent un relief saisissant. Le sacrement de mariage, dit-il, est un insigne don offert au conjoint. Ce sacrement consacre et scelle l'unité indissoluble des époux à l'image de celle du Christ et de l'Église, son épouse. Il sanctifie l'état de mariage en conférant au conjoint des grâces de fidélité à la loi divine, force et élan dans le don de soi réciproque. Voyez, le pour, l'aide voulue à l'origine est restaurée. Ainsi, le sacrement, continue le Père, cimente l'unité dans l'amour mutuel, fait progresser cet amour et à travers lui, l'amour même de Dieu. Si les hommes et les femmes appelés à unir leur vie savaient les dimensions du don qui leur est offert pour l'intégrité de leur foyer, la pureté et la profondeur, la montée de leur amour, leur cheminement vers le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez voyé, vous apercevez, nous sommes en 1972, bien avant la théologie du corps de Jean-Paul II, bien avant la théologie du don. Et pourtant, nous avons toutes ces expressions que Jean-Paul II va déployer merveilleusement dans ses audiences sur la théologie du mariage. Si les hommes et les femmes appelés à unir leur vie savaient les dimensions du don qui leur est offert pour l'intégrité de leur foyer, la pureté, vous voyez toujours, la pureté, en référence avec l'innocence originelle, restaurée par le Christ. Vous voyez. La condition pour qu'un tel amour se réalise, dit le Père, c'est la foi. Une foi vivante. Une foi vivante, là, cette expression, page 196. Alors, concernant les cinquième, sixième et septième flashs, on va les considérer ensemble. Alors, le cinquième flash nous invite à découvrir ce qu'implique virginiser l'amour et quelle est la mission spéciale de la femme dans ce mystérieux processus. Le Père y parle du rayonnement de l'amour. Comment l'amour rayonne-t-il? Comment devient-il rayonnant au point d'attirer d'autres personnes à vouloir réaliser le bel amour? Comment l'amour dans le mariage, ou le bel amour des adolescents qui s'aiment d'une façon pure, comment l'amour rayonne-t-il? Comment la fraternité franciscaine rayonne-t-elle? Pourquoi votre amour est-il attirant? Pourquoi la fraternité se développe-t-elle? Pourquoi votre témoignage est-il fécond? C'est important de trouver à la page 197 quelques éléments de réponse. Par l'influence de la prédominance de l'Esprit-Saint en nous, par l'amour spiritualisé. Donc chaque fois qu'on trouve amour spiritualisé chez le Père Marie-Joseph, disons-nous, c'est la prédominance de l'Esprit-Saint dans notre vie. Pouvons-nous aller un peu plus loin dans la compréhension de ce que le Père veut dire par spiritualiser l'amour, virginiser l'amour? Le Père observe que la femme joue un rôle particulier pour virginiser l'amour. Il ajoute, selon le dessein de Dieu, tel qu'il apparaît dans l'Écriture et la vie des saints. Page 97. Alors, je me lance dans une petite explication, qui n'est pas dans les flashs, mais qui est partout certainement chez le Père dans son expérience pastorale. Alors, les personnes qui ont été conduites par lui savent et reconnaîtront, je pense, ce que nous allons dire maintenant. Pourquoi donc une mission particulière de la femme? C'est très frappant. À ce niveau, la femme, conformément à sa vocation propre, tient un rôle particulier, créée complément mais partenaire de l'homme pour donner la vie, être mère. Elle a comme une vocation spéciale d'aimer, une puissance mystérieuse de rayonnement d'amour dans le don de soi quasi inconditionnel et illimité. Elle y réussit dans la mesure où elle sait cultiver l'esprit de virginité. Donc, cette page 197 qui est très très importante. C'est que la femme a une vocation spéciale à aimer. Et c'est dans la figure de la Sainte Vierge, bien entendu, que nous découvrons le maximum de lumière concernant ce mystère. Il suffit de convoquer notre expérience commune et d'observer une maman. Pourquoi l'amour de la maman est-il si merveilleux? C'est que les mères prennent leur plaisir à l'amour qu'elle donne et non pas à celui qu'elles reçoivent de leurs enfants. Il semble qu'il leur suffise de voir leurs enfants heureux et leur tendresse n'est pas amoindrie du fait que leurs petits, dans leur état d'innocence et d'ignorance, ne peuvent leur rendre les sentiments qu'une mère serait en droit d'attendre d'eux. La maman aime son enfant sans chercher d'abord à être aimée. Elle ne se préoccupe pas d'être aimée. Et n'est-ce pas là le vrai moyen de remédier à cette inégalité qu'on est souvent porté à observer en amitié? On pense que l'amour qu'on reçoit n'est pas égal à l'amour qu'on donne. La question n'a pas de sens quand on ne pense plus justement qu'à aimer, à donner son amour, et non pas à recevoir, à capter son amour. La femme mère, en ce sens-là, ne se contente pas de vouloir spontanément le besoin, le bien de celui qu'elle aime, mais elle le lui procure. Elle agit vraiment pour réaliser le bien de son enfant. Elle se donne de la peine pour l'aider, pour le nourrir, jour et nuit, l'éduquer. La femme, la mère, c'est bien évident, est là, observe le Père Marie-Joseph, je vous ai lu ce texte tout à l'heure, une puissance mystérieuse de rayonnement d'amour dans un don de soi quasi inconditionné et illimité. Et les mots sont pesés. Ils ont un poids énorme. Puissance d'amour quasi inconditionné et illimité. Rayonnement d'amour dans un don de soi quasi inconditionné et illimité. Et de ce point de vue, c'est mon commentaire, la femme est pour ainsi dire l'éducatrice de l'amour. La première expérience de l'amour que nous faisons, c'est l'amour de notre maman. Et tous les hommes, sans aucune exception, naissent dans l'amour de leur maman. C'est pour cela que la maman est l'éducatrice, non seulement de l'amour, de la manière dont ses enfants vont être aimés, mais elle est, et c'est là que le Père veut nous amener, elle va contribuer aussi à apprendre à son mari à aimer. Ce don de soi que la maman réalise aide son mari à s'élever, dit le Père, au-dessus des attirances trop terre-à-terre. Page 197. À lui faire apercevoir non seulement le bien de l'autre, mais le bien qu'est l'autre. Il s'agit d'aimer l'autre pour lui-même et non pas pour soi-même. De plus, l'expression « virginiser l'amour » fait penser à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Là, il n'y a rien à faire. On ne peut pas résister à la tentation. Donc, on prend « virginiser l'amour », prend son courage à deux mains, on descend à la bibliothèque et on regarde le gros livre qui s'appelle « Les mots de Thérèse » et on trouve « virginiser ». Et il y a des expressions de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, justement, dont le Père est pénétré, bien entendu. Il connaît par cœur ces expressions-là. Et il connaît par cœur aussi la poésie que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a faite sur Sainte Cécile. Et nous sommes à Rome. Et nous allons aller visiter la catacombe. Bien sûr, pas pour la visiter, mais pour prier Sainte Cécile. Et donc, vous voyez, là, il y a quelque chose, une source. Alors, Thérèse, la petite Thérèse, notre Thérèse, comme il le dit, Thérèse emploie ce verbe « virginiser » à propos de Sainte Cécile. Ce que Thérèse admire le plus chez Cécile, c'est son abandon, dit-elle, sa confiance illimitée, qui l'ont rendu capable de virginiser des âmes n'ayant jamais désiré d'autre joie que celle de la vie présente. Concrètement, virginiser l'amour, pour Cécile, consiste à faire entrevoir à Valérien des joies autres que celles de la vie présente. Dans la troisième poésie, Thérèse développe le processus de virginisation de l'amour. Et on dirait que le Père Marie-Joseph a en tête, au moment d'écrire son flash, toute l'histoire de Cécile et de Valérien. Et il va en parler du reste dans le sixième flash. Donc c'est pas étonnant que à Rome, la thématique de virginiser l'amour soit rattachée, bien sûr, à Cécile et Valérien, mais par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous allez voir. Dans sa troisième poésie, donc, Thérèse développe ce processus de virginisation qu'elle observe. Donc, et où Cécile la femme, donc, a un rôle particulier, exactement comme le Père vient de le dire. Elle dit que dès que Cécile lui révèle le mystère de l'habitation des trois personnes divines dans le cœur du baptisé, Valérien, qui n'est pas baptisé, s'exclame « Je veux que le vrai Dieu habite dans mon âme. » Cécile, mon amour sera digne du tien. C'est la poésie de Sainte-Thérèse. Vous voyez, lorsque les époux ont en commun l'amour de Jésus et que cet amour est total, l'amour pour Jésus et l'amour de Jésus pour eux, eh bien leur amour est virginisé. Les époux sont invités à s'élever au-dessus des attirances trop terre-à-terre, comme dit le Père, à se dépasser, à se hausser à la maîtrise de soi. Fin de citation. Cécile contribue au bien total, intégral de Valérien, à ce bien surnaturel qu'est son union à lui, Valérien, avec le Christ. Et c'est à cette condition de faire entrevoir à l'autre son bien le plus précieux et sa vocation surnaturelle à l'union avec Dieu et de l'aider à l'atteindre que s'ouvre aux époux l'amour merveilleux. La dimension merveilleuse de l'amour, la beauté de l'amour, le rayonnement de l'amour, le vrai rayonnement. Plus dans le mariage, dit le Père Marie-Joseph, on se rapproche du Seigneur, plus on s'enracine à deux en lui, plus on sera à même de vivre un amour merveilleux. Et ça lui suffit ce mot-là. C'est merveilleux, c'est beau, ça rayonne, le bel amour. Mais il reste qu'aux yeux du Père, la femme a un rôle particulier dans cette virginisation, dans cette spiritualisation. Elle dispose d'une sorte de toute-puissance si elle sait spiritualiser, virginiser son mari. Page 198. Extraordinaire. Mais c'est bien Cécile qui est derrière. C'est parce que Cécile a dévoilé les richesses de la grâce du baptême à Valérien que l'amour de Valérien est devenu tout d'un coup digne de l'amour de Cécile. C'est pourquoi le Père dit « Rien d'étonnant que Cécile, qui par la puissance, la douceur, la pureté de son amour, a su virginiser son fiancé Valérien, soit la patronne de la musique sacrée. Son mariage est une merveilleuse histoire d'amour. » Il dit ça à la page 200, dans le septième flash. Au-delà de Cécile et de Valérien, il y a, dit le Père, les deux êtres les plus exquis que la terre ait portés. Dans le septième flash. Un point culminant. Oui. On sent aussi, quand on étudie ces flashs, on sent qu'il y a une progression. On atteint vraiment un point culminant dans le septième, les derniers flashs. Joseph et Marie. Pourquoi l'Église propose-t-elle aux chrétiens mariés l'exemple et le modèle de Joseph et de Marie, la Sainte Famille? Cime, dit le Père, cime d'une pureté immaculée, d'une éblouissante splendeur, dont l'amour conjugal vécu loyalement sur le plan ordinaire d'ici-bas, dit le Père, pourrait et devrait peut-être finir par rapprocher le point de départ. Donc, nous autres, foyer chrétien, famille chrétienne, l'Église nous propose Joseph et Marie, cime d'une pureté immaculée, dont l'amour conjugal, le nôtre, vécu loyalement, pourrait peut-être finir par rapprocher le point de départ. Vous voyez, c'est très nuancé. La Sainte Famille est donnée comme modèle, mais inaccessible. Nous sommes simplement mis sur la piste. Peut-être que l'amour conjugal pourrait peut-être finir par rapprocher le point de départ de cette cime inaccessible. Il faut le savoir. Mais quand même. La beauté de l'amour, l'amour attirant. Pourquoi Joseph et Marie, modèle de l'amour? L'art d'aimer, répond le père, consiste à virginiser l'amour. Plus les conjoints, en progressant, s'élèveront au-delà des limites de la condition humaine, plus leur commun envol vers Dieu sera réel, plus alors leur propre amour mutuel atteindra à cette hauteur indicible qui est communion à l'amour infini. Et ailleurs, plusieurs années après, il dit à la page 297, l'essence du mariage, c'est l'amour, le don de soi, le oui donné à l'autre. Je suis corps et âme donné à toi, et toi, tu es à moi. L'essence du mariage, c'est donc l'amour. Il est important que ceux qui ont cette vocation soient attirés par ce qui est l'idéal d'un amour. Or, l'idéal, la cime d'un amour mutuel, c'est celui de Joseph et de Marie. Dieu est devenu pour l'un comme pour l'autre leur grand bien, leur grand lien, leur grande unité. Ce n'est pas facile à faire comprendre cela, mais c'est important. Même si on ne se rend pas assez compte théologiquement ou spirituellement ou intellectuellement de cette vue, n'empêche que le fait qu'on vénère la Sainte Famille suffit pour qu'on soit pris dans une pureté d'amour. Vous voyez toujours la hantise de la pureté de l'amour, virginiser l'amour, cette prédominance de la vie de l'Esprit-Saint en nous, qui va nous permettre de vivre la dimension du don total telle que le Christ nous permet de la vivre, telle qu'il l'a restaurée par rapport à l'origine. Ce que nous avions perdu par le péché nous a été rendu par le Christ, surabondamment. Il s'agit donc d'une communion, d'une commune union théologale. Il s'agit de progresser dans cette union avec Dieu, comme l'ont fait Marie et Joseph. Dieu est devenu, pour l'un comme pour l'autre, leur grand lien, leur grande unité. Vous voyez, quand on cherche ce qui fait la communion des époux, c'est Dieu. Et c'est cela qui est accessible à tout chrétien. La participation mystérieuse à la vie même de Dieu, à la béatitude de la très sainte Trinité, dit le Père, page 200. Le don total de soi dans le bel amour est possible parce que par l'amour, on est l'un et l'autre unis à Dieu. Cette union est commune, elle est un trait d'union entre nous, elle assure la communion des cœurs, la commune union. C'est ça, la virginisation de l'amour. Vous voyez, retour à l'origine. Deux mots apparemment contradictoires. Oxymore. Mais alors, d'une portée théologique merveilleuse. Cette virginisation de l'amour ne concerne pas seulement les époux dans le mariage, même si le mariage de Cécile et de Valérien est un mariage exceptionnel, elle concerne aussi la vie consacrée. C'est parce que Thérèse a fait entrevoir à Céline, sa sœur, le pur rayonnement du visage divin, que Céline, de son côté, a pu renoncer au mariage et consacrer tout son cœur à Jésus. Et le Père Marie-Joseph dit à ce sujet dans le sixième flash, virginisée, la femme, mariée ou non, y est appelée. Il y a cependant une virginité parfaite, une continence, un célibat librement choisi ou consenti, consacré au Christ et à l'Église. Vocation de vivre, non pas sans amour, au contraire, c'est un appel à vivre, par-delà l'œuvre de chair, un amour autre, normalement d'une qualité supérieure, souligne le Père. Parce que, entièrement centré sur Dieu, au vrai, le Seigneur est l'époux de chaque âme. En lui seul, en définitive, l'amour sera complet. Il sollicite et invite certaines âmes à ne vouloir exister, si l'on peut dire, que pour lui seul. Il leur offre et propose d'entrer dès ici-bas dans des relations particulières d'amour, dans une intimité spéciale avec lui. C'est qu'il est l'amour, amour infini, assoiffé d'aimer et d'être aimé sans limite. Fin de citation. Dans les deux cas, celui de Cécile et de Valéria, deux époux, et celui de Thérèse et de Céline, sa propre sœur, deux consacrés, il y a virginisation de l'amour. C'est-à-dire révélation d'un bien supérieur et aide dans la conquête de ce bien. Et la conséquence dans le mariage, c'est que, comme le dit le Père Marie-Joseph, plus les deux s'aimeront en vérité, entendons dans ces perspectives de leur destinée commune surnaturelle en Dieu et du concours mutuel dans l'acquisition de ce bien divin, plus leur amour de Dieu grandira et ils seront heureux. Et l'effet d'une telle chasteté, c'est de part et d'autre, dans le mariage comme dans la vie consacrée, la fécondité spirituelle. Fécondité spiritualisée, justement. Thérèse l'explique encore dans sa poésie « Jésus, mon bien-aimé, rappelle-toi. Rappelle-toi que ta rosée féconde, virginisant les corolles des fleurs, les a rendus capables, dès ce monde, de t'enfanter un grand nombre de cœurs. Je suis vierge, ô Jésus. Cependant, quel mystère, en m'unissant à toi, des âmes, je suis mère. » Le Père Marie-Joseph dit dans sa réflexion finale, page 200, « Un cœur de femme, jeune fille, fiancée, épouse, mère, un cœur de femme consacré à Dieu, dans la mesure où il est épris et possédé de l'amour divin, opère des merveilles. » Cette virginisation de l'amour, maternité spirituelle, dont parle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Certainement, le Père Marie-Joseph connaît cette poésie de Thérèse. Jésus, mon bien-aimé, rappelle-toi. Je suis vierge. Cependant, quel mystère, en m'unissant à toi, Jésus, des mères, des âmes, je suis mère. Mais je voudrais évoquer une autre conséquence de cet amour virginal, très importante aussi, pour nous qui sommes engagés dans des apostolats qui nous font vivre au milieu du monde. Et c'est l'attitude fondamentale du Père Marie-Joseph qui nous lançait dans ces apostolats et qui nous lance encore dans la nouvelle évangélisation, chacun notre place, que nous soyons jeunes ou que nous soyons plus avancés en âge. C'est cela qui me fait, la manière dont il nous lançait dans l'apostolat, qui me fait penser à ce dernier aspect de l'amour virginal que je voudrais souligner maintenant. Thérèse, encore là, nous sert de guide. Elle écrit dans une lettre à Céline, « Détachons-nous des consolations de Jésus pour nous attacher à lui. » Et la Sainte Vierge Ah, Céline, cache-toi bien à l'ombre de ce manteau virginal afin qu'elle te virginise. La pureté, c'est si beau, si blanc. Ça, c'est dans une lettre de Thérèse. La lettre 105. Donc Thérèse dit, détachons-nous des consolations de Jésus pour nous attacher à lui. Cachons-nous bien à l'ombre de son manteau virginal afin qu'elle te virginise. Et jusqu'ici, nous sommes dans le registre de la troisième poésie où la pureté est à comprendre comme un effet de la spiritualisation. Cette élévation du regard qui considère les biens du ciel, notre vocation à l'union divine, l'union avec Jésus, un amour total qui devient, tel saint François lui-même, comme la représentation de l'Évangile. Mais Thérèse poursuit, et voilà le but de la virginisation de l'amour. Vous voyez comme c'est étonnant. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Oui, ils le verront même sur la terre où rien n'est pur, mais où toutes les créatures deviennent limpides quand elles sont vues à travers la face du plus beau et du plus blanc des lys. Eh bien, l'un des effets culminants de la grâce en nous, c'est de nous faire voir les personnes, même quand il y a du mal en elles, à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour, comme dit la petite Thérèse dans son offrande à l'amour miséricordieux. Et en ce sens, frères et sœurs, nous pouvons dire que le Père Marie-Joseph avait le regard de Jésus sur nous, sur les jeunes. Et c'est ce regard qui virginise les jeunes, qui les promeut dans le bien, qui les accompagne de prière et les enfante à la vie de Dieu. Je répète la parole de Thérèse. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Oui, ils le verront même sur la terre où rien n'est pur, mais où toutes les créatures deviennent limpides quand elles sont vues à travers la face du plus beau, du plus blanc des lys. Le point culminant de l'amour virginal, virginisé, c'est de voir le bien là où il y a apparemment que du mal. Et c'est ça qui promeut, qui élève ce qu'il y a de bon dans l'homme, dans tout homme. C'est ça qui rayonne dans la fraternité franciscaine de Peach. C'est ça l'héritage du Père Marie-Joseph, ce regard créateur, virginal, cet amour à ce point virginisé qu'il crée, qu'il promeut la moindre étincelle de beauté, de bien, les moindres capacités qu'il y a en tout homme, en toute personne. Avant de laisser la parole au Père dans son dernier flash, j'aimerais vous partager au sujet de ce regard éminemment créateur sur les autres, parce qu'on les voit à travers la face de Jésus, on voit en eux Jésus, leur modèle qu'ils doivent un jour reproduire, quelles que soient les étapes intermédiaires qui conduiront à cette ressemblance de Jésus. Je voudrais vous partager quelques lignes du Père, du Saint-Père Jean-Paul II. Il écrivait dans Mémoire et Identité, les toutes dernières choses que le pape Jean-Paul II nous a laissées, en Mémoire et Identité à la page 44, l'union à Dieu peut se réaliser dans la vie présente. Écoutez bien ceci. Là, nous sommes en 2005. Et les textes que le Père Marie-Joseph nous dit au sujet de la virginisation, c'est en 72, voyez. Et nous pouvons dire, voyez, c'est ce que nous allons lire au sujet du Jean-Paul II, nous pouvons dire que c'est un élément qui est en place déjà chez le Père Marie-Joseph en 72. Et pour moi, c'est un élément de sa sainteté. Regardez bien ce que dit le pape Jean-Paul II. C'est un texte autobiographique, mais le pape Jean-Paul II était très discret sur sa propre profondeur spirituelle. Voyez ce qu'il dit. L'union à Dieu peut se réaliser dans la vie présente. L'homme trouve en Dieu tout. Il est en contact avec lui, en tout et à travers tout. Les choses créées cessent d'être un danger pour lui, comme elles l'étaient surtout lorsqu'il parcourait la voie purgative. Les choses créées, et particulièrement les personnes, non seulement retrouvent leur lumière propre, cachée en elles par le Dieu créateur, mais, si on peut s'exprimer ainsi, elles rendent accessible Dieu lui-même, de la manière dont il a voulu se révéler à l'homme, comme Père, comme Rédempteur et comme Époux. Voilà la liberté dans l'amour, voilà l'amour pur que le Père Marie-Joseph a en vue, le bel amour qui est le fruit de la surabondante vie de l'esprit d'amour en nous. Et dont le Père décrit la fécondité dans ces lignes de son flash final, dans cet été 1972. Les Thérèses et les Céciles de tous les temps sont des artistes prodigieux du plus bel art, de l'art le plus nécessaire qui soit, l'art d'aimer. L'amour virginisé, la femme consacrée, y est comme prédestinée, la femme mariée, elle aussi, à sa manière, à son niveau. Car tous et chacun, nous sommes appelés à la plénitude de vie chrétienne, qui est plénitude d'amour, à la sainteté par l'esprit d'amour qui nous est donné en Jésus-Christ. Page 200. Et ce texte, merveilleux. Je vous l'ai dit, il y a diverses façons pour l'Esprit Saint de purifier l'amour. Toute notre vie, dans toutes ses dimensions, peut être remplie de l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le rayonnement de l'amour. Nous avons simplement découvert quelques aspects de la purification nécessaire de l'amour dans nos vies. Le Père Marie-Joseph nous indique dans ses enseignements bien d'autres aspects, surtout à l'école de Saint François, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de Sainte Claire, de tant d'autres amis de Dieu, avec lesquels il nous a mis en communion. Je ne veux pas aborder tous ces aspects, vous pourrez les approfondir dans vos lectures. On a tout notre avenir pour réfléchir à tout cela. Et dans la lecture de ce livre, eh bien, vous pourrez petit à petit découvrir toutes sortes de moyens que le Père nous donne, pour que justement cette primauté de l'Esprit-Saint se réalise en nous, que notre amour devienne spirituel, gorgé, sursaturé d'Esprit-Saint, et pour que nous puissions à notre tour virginiser les âmes et leur révéler la beauté de l'amour. Oui, cher Père Marie-Joseph, en ce jour de votre fête, que la Sainte Vierge et Saint Joseph, qui ont virginisé votre amour pour nous, vous remercient. En ces jours qui précèdent la béatification de notre cher Jean-Paul II, vous nous rappelez l'appel à la sainteté et vous nous en indiquez les moyens concrets. Nous vous félicitons de nous avoir conduits tous au bel amour, de nous avoir ouvert les perspectives surnaturelles de notre union avec l'amour en personne, l'Esprit Saint, et de notre transformation en amour. Nous vous remercions pour votre regard clair, optimiste, joyeux sur l'amour, pour votre confiance dans les jeunes et le réconfort que vous apportez à chacun de nous, à toutes les étapes de notre route vers la sainteté. Nous vous remercions pour les modèles de sainteté que vous nous avez donnés, à la fois si haut et si humains, qui répondent à la vocation que le Seigneur a choisie pour nous au sein de la fraternité. Amen.